straight past where they're gonna put in the freeway. And take a left at what's gonna be the new sports center. And keep going till you hit the place where they're thinking of building that drive-in bank. You can't miss it. And I said, this must be the place.
Femmes et nouvelles technologies, c'est le titre de cette émission. C'est une retransmission d'une discussion qui a eu lieu au Centre Femmes avant Noël, discussion qui a été animée par un groupe de quelques femmes qui avaient assisté en juin 83 à une conférence organisée par le groupe de documentation féministe ISIS sur le thème justement « Femmes et nouvelles technologies ».
C'est un peu informel, on ne vient pas vous faire une conférence, on va un peu vous parler des différents ateliers. Donc, il y avait des participantes qui avaient été invitées, il y avait des participantes du Japon, de Hong Kong, Malaisie, Philippines, Inde, République dominicaine, USA, Canada, Belgique, RFA, Angleterre, Italie, France, Norvège et Suède, ainsi qu'une trentaine de participantes au niveau local. Alors, la conférence a constamment oscillé entre deux pôles, c'est-à-dire les femmes qui sont dans le tiers-monde, qui créent les technologies, qui font les puces, et puis les femmes qui sont dans le... Bon, chez nous...
Les puces,
c'est-à-dire c'est les microprocesseurs, tout ce qu'il y a à l'intérieur des machines, des computers, c'est des pièces, avant c'était des transistors, c'était des électrodes, enfin des tubes. Ensuite c'est devenu des transistors et maintenant c'est des toutes petites pièces comme ça qui ont, je sais pas, moi je connais pas très bien la technique, mais enfin qui ont des capacités de rétention énormes. Je crois que sur une puce comme ça on peut mettre des milliers d'informations. C'est tout un travail qui se fait de montage au microscope et puis maintenant aussi en partie automatisé.
Stranger. Howdy, stranger.
les femmes qui étaient présentes vont donc parler tour à tour de l'impact des nouvelles technologies sur le travail et l'emploi, principalement des femmes, sur les nouvelles technologies à domicile, sur les risques pour la santé des nouvelles technologies et sur ces nouvelles technologies utilisées, par exemple, pour l'accouchement. Et finalement, sur les possibilités de contrôle exercées ou introduites par ces nouvelles technologies.
Alors, moi, je vous parlerai, si vous voulez, de ce qui a été dit sur les effets des nouvelles technologies. Alors, d'abord, par nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on entend ? C'était assez général, il n'y a pas eu de définition restrictive. Hein, ce sont tous les instruments nouveaux qu'on a maintenant. Mais on s'est quand même centré beaucoup plus sur ce qui touche à l'informatique, parce que je crois que c'est ce qui va profondément bouleverser dans les années à venir, et nos conditions de travail et nos conditions d'existence. Je pense que c'est assez évident pour tout le monde, mais c'est peut-être pas inutile de le rappeler. Je pense qu'on va assister dans le domaine des services à ce qu'on a, à l'équivalent de ce qui s'est fait au début du siècle pour la production. Vous savez qu'on a d'abord automatisé la production, c'est-à-dire qu'on a remplacé la force de travail de l'homme par des machines. Et maintenant, donc ça c'était lié au secteur secondaire, à l'industrie. Et maintenant, on assiste à l'automation dans le domaine des services, c'est-à-dire que tout un ensemble de tâches, de classement, de calcul, etc., qui étaient faits donc dans le secteur des services, vont pouvoir être faits par les machines. Alors, une première idée qu'a développée l'auteur, Ursula Hoefs, qui a fait la conférence inaugurale, était de remettre en question l'idéologie mystificatrice qui entoure les nouvelles technologies. Hein. Souvent, on présente ces nouvelles technologies comme quelque chose d'intrinsèquement progressiste, parce que c'est la science, c'est la technique, c'est le progrès, et ça sous-entend que ça va apporter des avantages pour tout le monde. Et bon, ce que je vais essayer de vous rapporter ici, c'est comment les femmes, plus particulièrement, se trouvent, au moins pour un certain nombre d'aspects, désavantagées par ces nouvelles technologies. Quels sont les effets de ces nouvelles technologies sur le marché du travail, l'emploi, les contenus des tâches qui sont faites? Alors, un premier effet qu'on peut mettre en évidence, c'est que l'automation dans le secteur des services entraîne une diminution des postes de travail. Et comme par hasard ou comme par exprès, les postes qui sont supprimés, ce sont des postes occupés par des femmes. En effet, ce qu'on peut automatiser, ce sont des postes en général, des tâches répétitives, assez monotones. Et comme ces tâches sont en général faites par des femmes, ce sont elles qui perdent leur emploi. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples de cela. Au Japon, vous savez que le Japon est un des pays où les nouvelles technologies sont le plus développées. Le Japon compte le plus haut taux de computers, d'ordinateurs et de robots par rapport au nombre de travailleurs. Donc, c'est un bon exemple pour voir un peu ce qui nous attend ces prochaines années. Alors, au Japon, par exemple, dans les banques, qui est un secteur où on a beaucoup automatisé, eh bien, en 1982, le nombre de femmes employées par rapport à 81 a diminué de 30 à 50%. Ce sont principalement des emplois de bureau. Or, il faut dire que pour tout un ensemble de femmes, et spécialement des femmes d'âge moyen, perdre le travail, ça veut dire être exclue plus ou moins définitivement du marché du travail, parce qu'elles auront beaucoup de peine à retrouver quelque chose. Un autre chiffre, je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais il est quand même intéressant. Si on regarde l'emploi dans les grandes compagnies, toujours au Japon, eh bien, on se rend compte que globalement, il s'est accru de 3,1%. Alors on se dit, mais c'est très bien, les emplois augmentent. Et quand on regarde les choses de plus près, eh bien, on voit qu'en fait, il y a une augmentation de 6,1% pour les hommes, mais une diminution des postes de travail de 4,3% pour les femmes, hein, ce qui fait une augmentation moyenne de 3,1%. Et les postes en diminution seront principalement des postes de travail de bureau. Bon, ça c'est donc la première chose. Alors oui, il y a une première question dont on pourra peut-être débattre. On pourrait se dire qu'en soi, c'est peut-être un progrès que les travaux les plus routiniers et les plus monotones soient supprimés. Dans l'absolu, on peut se dire que c'est bien que ce soit les machines qui fassent ça plutôt que des êtres humains. Mais dans la mesure où ça veut dire que ce sont les femmes qui font les frais de cela et que ça veut dire une exclusion pour elles du marché du travail plus ou moins définitive, la difficulté à se recycler, ça pose quand même tout un ensemble de problèmes qu'on ne peut pas passer sous silence. Le deuxième effet qu'on peut mettre en évidence, c'est qu'à la fois les nouvelles technologies entraînent un processus de surqualification et de déqualification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une part, il y a création d'un petit nombre d'emplois très qualifiés, programmeurs, analystes, etc. Comme par hasard, de nouveau, ces emplois sont surtout occupés par des hommes. Et à la base, on assiste à une fragmentation des opérations du travail de bureau, si vous voulez, fragmentation qui rappelle aussi ce qui s'est passé dans l'industrie au début du siècle, où on a fragmenté les choses et où donc l'employé perd une vision totale, hein, comme l'avait autrefois, par exemple, la secrétaire dans une petite entreprise qui pouvait un peu maîtriser tout ce qui se passait. Eh bien, il y a perte du contrôle du processus, dépendance de plus en plus grande de la machine, du rythme de la machine, et ces emplois, donc, sont occupés par des femmes. Donc, si vous voyez, d'un peu deux pôles, hyper-qualification d'un côté, sous-qualification de l'autre, et on voit que ça a eu pour effet donc d'accentuer ces nouvelles technologies, la division sexuelle du travail. Ah, c'est pas nouveau, on savait que les femmes étaient dans les emplois les moins qualifiés, les moins payés, les plus répétitifs, mais on peut dire que les nouvelles technologies, de ce point de vue-là, accentuent le processus. Un troisième effet que je trouve très, très intéressant à connaître concerne la division internationale du travail, ce qu'on appelle la division internationale du travail, c'est-à-dire la répartition du travail entre pays riches et pays pauvres. Alors, vous savez sans doute que déjà maintenant et déjà depuis un certain nombre d'années, la production était déplacée vers des pays en voie de développement parce que la main-d'œuvre y était très bon marché. Hein, production justement de puces, de composants de microélectronique, de textiles, d'habits. On voit assez souvent dans les magasins des habits made in Hong Kong ou in Taïwan, etc. Donc ça, je crois que c'est un phénomène connu. Mais ce qui est beaucoup moins connu... Ce qui est beaucoup moins connu et ce qui me paraît très, très important, c'est que maintenant, on commence à déplacer vers le tiers-monde des tâches de service, c'est-à-dire notamment tout un ensemble d'opérations qui étaient faites par des employés de bureau, comme par exemple des entrées de données, codification, etc. Alors, ça se fait maintenant en Inde ou à Singapour, par exemple, où la main-d'œuvre est extrêmement bon marché. Ça se fait de nouveau principalement par des femmes. Et l'information qui a été enregistrée est retransmise par satellite. Ça, c'est aussi permis par les nouvelles technologies, les satellites. C'est transmis par satellite à San Francisco, en Californie, à New York, etc. Donc, de nouveau, ça se fait sur le dos du tiers-monde, ça on le savait déjà à propos de la production, mais hein, il faut, je crois, préciser, sur le dos des femmes du tiers-monde, parce que ce sont principalement des tâches féminines. Bon, un quatrième effet qu'on pourrait mentionner, c'est des changements dans la localisation des places de travail à l'intérieur d'un pays. Alors, je ne vais pas développer ce point-là, parce que ça fait principalement allusion au transfert du travail, du poste de travail habituel de l'entreprise, si vous voulez, à la maison. Je crois que Jane va développer cet aspect des ordinateurs transférés vers la maison. Un cinquième changement qui est aussi intéressant à relever, c'est que les nouvelles technologies changent les limites entre le travail payé et le travail pas payé. Alors, par exemple, il y a le développement maintenant de plus en plus de self-service à différents niveaux pour différents biens. Et ce développement de self-service, ça veut dire diminution d'un certain nombre d'emplois, de postes de travail, et ça veut dire augmentation de la charge de l'acheteur. Or, comme les femmes ont en général la charge de s'occuper de ce qui est de la consommation, des achats, on peut se demander dans quelle mesure le développement de self-service ne va pas signifier pour les femmes un surcroît de travail, mais de travail qui ne sera pas payé.
Les personnes donc, qui ont parlé ont évoqué la division internationale du travail, mais il y a une autre division dont elles vont parler, c'est la division entre le travail fait dans les entreprises ou dans les bureaux et le travail fait à domicile, qui est en train de se développer très largement, justement par la facilité de pouvoir avoir un écran télévision relié par téléphone à domicile. Il y a de plus en plus de personnes, de femmes, qui font ce type de travail. Par exemple, une agence de travail temporaire japonaise utilise les services de 14 000 femmes travaillant à temps partiel chez elles. Cette agence vient de lancer un service fondé sur l'utilisation des nouvelles techniques de télécommunication. Pour les entreprises qui sont obligées de recourir pour des périodes limitées directement à du personnel travaillant à domicile, le système proposé consiste à offrir la disponibilité de personnes qualifiées souhaitant travailler à temps partiel. Donc c'est un phénomène qui va augmente, qui croît. Et par exemple, les travailleuses à domicile, dans ce cas-là, dans cet exemple, doivent s'engager à travailler un minimum de 100 heures par mois et produire au moins 100 pages dactylographiées pour que le système soit rentable. Elles se voient confier des textes de contrats, de brochures diverses, des comptes rendus de réunions, etc. Donc ce système va être présenté par une femme américaine ou anglaise avec un fort accent dont elle s'excuse et elle va en présenter les avantages et les désavantages. Il y a sûrement des avantages pour les entreprises. Est-ce qu'il y a des avantages pour les travailleuses? C'est ce qu'on va écouter.
Je vais peut-être vous dire les raisons pourquoi les corporations font comme ça, les grandes multinationales. C'est moins cher. C'est évident, tout ça, je crois. Il n'y a pas de frais généraux. Si on a les gens qui travaillent à la maison, il ne faut pas payer le chauffage, le loyer, tout ça. Il n'y a pas de caisse de retraite pour ces gens-là. Il n'y a pas de paiement pour la maladie. Il n'y a pas de paiement, pas d'assurance, pas de vacances, rien. Il n'y a pas de syndicat. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Les gens qui travaillent à la maison n'ont aucune sécurité comme ça. Les salaires sont bas. Ce n'est pas du tout les salaires, c'est les paiements. Ça, je voudrais peut-être vous demander peace rate. C'est quoi? On est payé pour ce qu'on fait.
À la pièce.
Alors, c'est peut-être la chose la plus importante. Les salaires sont bas, mais c'est selon les heures qu'on met. Bon, alors pourquoi les femmes font ça? D'abord, la raison normale, on a besoin d'argent. C'est possible, c'est flexible. On peut en même temps faire la ménage, on peut en même temps garder les enfants. Alors, on reste à la maison, on loue, ou bien on reçoit simplement un écran à la maison, et on fait des heures qu'on peut on fait entrer des renseignements là-dedans. C'est du travail fragmenté, c'est ennuyeux, c'est isolé. C'est ça peut-être aussi une situation très importante, parce que les avantages du travail sont souvent les avantages sociaux. On a des contacts humains qui manquent à la maison, entourés avec les enfants, sans contact. Mais quand même, les femmes le font, ils se sentent aussi moins de culpabilité. Parce que si on est une femme, surtout si on est une mère, et on part dehors travailler, on laisse les enfants avec quelqu'un d'autre, on se sent coupable dans cette société. Et ça, c'est un peu moins si on est là avec les enfants, même si les gosses sont fermés dans une chambre pendant qu'on fait son travail, on se sent un peu mieux. C'est une question de la société, mais je crois que c'est vrai, c'est quelque chose que toutes les mères sont. Les heures sont flexibles. Ça veut dire qu'on peut faire le ménage, garder les enfants, préparer les dîners, tout ça, être gentil avec le mari, tout ça. Et puis après, on fait le travail sur l'écran, quand on peut. N'importe quoi qu'on est fatigué, on continue, on est payé. Bon, il y a un point ici. Comme m'a dit, il semble que ce n'est pas tout à fait comme ça. En effet, il y a maintenant des systèmes ici. C'est la machine qui dit quand il faut travailler. Alors, on a maintenant les écrans qui font bzzz. Maintenant, il faut me donner d'état. Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on aurait pensé qu'on pourrait faire quand on veut dans 24 heures pour faire son 8 heures. Ce n'est pas comme ça. Maintenant, je suis prête. Bip, bip. Bon. Et puis, les autres désavantages, c'est qu'on est contrôlé. Parce que la machine prend note de ce qu'on fait. Des heures qu'on met, si on le fait régulièrement dans une groupe, ce qu'on doit faire, ou si on fait 10 minutes et puis on va faire quelque chose, et puis changer de linge, et puis revenir. Alors, il y a tout ça, il y a vraiment des désavantages pour les femmes, là.
Quelques exemples, parce qu'on parle de ces nouvelles technologies, mais montrer un peu ce qui est prévu, enfin ce qu'elles visent, et puis un peu ce qu'elles permettent. Hein. C'est très court. Donc on a déjà un peu parlé des réductions d'emplois qui se pointent ici. Je ne sais pas si vous êtes attentive à lire les pages économiques dans les journaux, des fois ça vaut la peine. On commence à faire des discours qui montrent qu'il faut dire la vérité aux gens, qu'on va en tout cas pas vers une baisse de chômage, mais que ça va se stabiliser vers les 12%. En Europe, qu'en Suisse aussi, malheureusement, ça continue à pas aller extrêmement bien. Par contre, si on regarde les bénéfices des banques et les bénéfices des grandes compagnies, ça va assez bien. Donc, c'est plutôt une crise du travail et pas tellement une crise économique en elle-même. C'est déjà un point que je voulais soulever. Et puis, dans les articles, si je le retrouve... si on regarde actuellement en Suisse, dans le troisième trimestre de cette année, il y a une augmentation de chômage de 0,5% pour les femmes et de 0,4% pour les hommes. C'est-à-dire que on voit que c'est quand même les femmes que ça commence à toucher, que ça touche un petit peu plus, même si ce n'est pas aussi marqué que dans d'autres pays. Hein. Alors... Là, je vous donne un exemple un peu, parce qu'on a rationalisé, comme on l'a dit, le secteur industriel. Une partie des travailleurs sont allés dans le tertiaire. Et actuellement, justement, le tertiaire, on commence à le rationaliser. Donc, je parle maintenant de la situation en Europe. Donc, le tertiaire ne sert plus d'éponge pour d'autres rationalisations. Et puis, le taux de chômage augmente. Et il y a certains économistes qui disent qu'on se trouve justement à un tournant dans l'économie. On commence à parler, enfin déjà depuis un moment, mais des solutions. Je ne sais pas si dans les journaux, on voit parler de plus en plus du job sharing, le travail à temps partiel, etc. Toutes ces solutions, est-ce qu'on va vers une diminution pour qui, etc. Il y a un enjeu qui se passe à ce niveau-là. Alors, Là, on donne un exemple que la production d'une page, pour écrire une lettre d'une page, suivant la méthode traditionnelle, coûtait entre $4.50 et $18. Ce qui comprend la lecture des preuves, la révision, la reprise et la mise à la poste. Aujourd'hui, à un coût inférieur au traitement d'une secrétaire supplémentaire, un éditeur de texte peut réduire le coût à une fraction de ce qu'il est et augmenter la productivité de plus de 250%. Ça donne un peu une idée de ce qu'on peut gagner, hein. Enfin, de ce que les employeurs peuvent gagner. Alors bon, là, c'est une brochure canadienne. Bon, l'introduction des nouvelles technologies touche d'abord les ghettos d'emploi féminins, compagnies d'assurance, bureaux, caisses, banques, compagnies aériennes et ferroviaires, communications téléphoniques, etc. Une baisse d'emploi d'environ 30% est prévue d'ici quelques années dans les bureaux et les banques. Alors, cité dans Journal informatique, on prévoit également d'autres solutions pour réduire nos frais d'exploitation, et ceci à très courte échéance. Un des moyens envisagés est la réduction du personnel de bureau. En effet, selon les études statistiques, il y aura une possibilité de réduction entre 20 et 40% de cette main-d'œuvre. Interroger des employeurs qui, par exemple, visent à travers ces systèmes, 41% des gens qui ont répondu, c'est nettement la réduction de postes de travail. Et puis dans 20% des cas, c'est aussi réduire les temps morts. Parce que les technologies permettent justement, comme on l'a déjà dit, on va encore l'expliquer, un contrôle beaucoup plus précis du déroulement de la journée de travail de chacun. Et puis ça permet d'inciter les gens à produire plus. Bon, ça c'est...
La crise, elle n'est pas n'importe où. Elle est dans les pays développés. Elle n'est pas du tout dans les pays sous-développés. Et toutes les femmes des Philippines et de Malaisie, c'est-à-dire toute l'Asie du Sud-Est, qui est vraiment le lieu d'investissement prioritaire du capital actuellement, il n'y a pas de chômage. Je veux dire, il n'y a pas de crise. Hein. Donc c'est un glissement, pour juste par rapport à ce que tu disais, la crise, elle existe, mais elle n'est pas la crise du capital, elle est la crise de la réorganisation des investissements du capital. Et ça, bon, il y a un bouquin enfin, qui est extrêmement intéressant à lire sur la place de la Suisse par rapport à ça. C'est le bouquin de Stetter qui s'appelle « L'exportation du Swiss Med » où il explique qu'en fait, sur les 100 plus grandes entreprises suisses qui tirent à elles seules les trois quarts du bénéfice, enfin, du produit national brut, il y en a les 12 les plus importantes qui elles-mêmes tirent 75%, enfin 75% des plus gros bénéfices, investissent, c'est un peu compliqué parce que ça fonctionne en boîte gigogne, investissent les trois quarts de leur capital dans l'Asie du Sud-Est et dans l'Amérique latine. Donc il faut bien saisir ça parce que ça a été un enjeu important au moment de la conférence et il apparaît continuellement dans ce qu'on avance, c'est-à-dire main-d'œuvre sous-qualifiée, sous-payée. Allons voir un peu plus loin parce que là, les revendications commencent à devenir un peu trop importantes, quoi.
En intermède et en prime, un extrait du Wall Street Journal du 23 septembre 1983 sur l'amélioration de la productivité et les risques d'aliénation aux USA. Dans ce pays, les efforts ont surtout porté jusqu'à présent sur l'amélioration de la productivité des ouvriers. Ceux-ci ne représentent déjà plus que 31% de la population active et ne seront plus que 23% en l'an 2000. Dans une société d'informatique et de logiciels en Californie, un plan visant à améliorer la productivité du personnel est en place depuis 3 ans. TRV, c'est le nom de l'entreprise, a voulu faire gagner du temps à ses programmeurs en leur évitant de rechercher leurs correspondants par téléphone, de faire du classement, d'assister à des réunions ou de jeter un coup d'œil par la fenêtre de façon à ce qu'ils se consacrent tout leur temps aux 10 millions de lignes de programmes rédigées chaque année. Pour améliorer cette productivité, il a été fait directement appel aux programmeurs. Ceux-ci ont défini un bureau type, beige, insonore, sans fenêtre, d'une conception toute spartiate avec un siège ergonomique, un tableau blanc, une étagère, une table de travail et un terminal. Au lieu de travailler en groupe de 3 ou 4, les programmeurs ont été isolés et n'ont plus à se déplacer pour tester leurs programmes. Le bureau est en effet équipé de toutes les techniques dites nouvelles, courrier électronique, téléconférence, terminal relié à l'ordinateur central. Les résultats sont probants. La productivité des programmeurs a augmenté de 39% en une année. Les intéressés expliquent que ceci est dû à une meilleure tranquillité, à un siège confortable et aux gadgets électroniques dont ils disposent après une phase d'adaptation plus ou moins longue. Ainsi, TRV se sent en mesure de participer à la croissance du marché du logiciel malgré le manque criant d'une main-d'œuvre qualifiée. Toutefois, les conséquences psychologiques négatives de telles conditions de travail ne sont pas à ignorer. À terme, il n'est pas exclu que les prévisions de TRV, c'est-à-dire un gain de 400 à 500% de la productivité dans les 10 ans à venir, ne se révèlent trop optimistes comme cela a été le cas dans d'autres industries où les facteurs humains n'ont pas été pris en considération et où la productivité, après avoir fortement augmenté, est redescendue à son niveau initial. Une chance que l'être humain ne puisse être programmé comme une machine. Une femme va parler maintenant des risques pour la santé du travail sur terminal avec écran.
Alors on peut définir, on parle de risques pour la santé, on ne parle pas encore de maladies dues à ces nouvelles technologies, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ces nouvelles technologies, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'elles sont introduites, donc on ne peut pas encore déterminer une pathologie spécifique à cette nouvelle technologie. Et puis, bon, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas pu mettre en évidence, à ce que je sache, du moins, une réelle pathologie. Par contre, il y a une série de risques, et on peut visualiser, c'est le cas de le dire, ces risques, dans la mesure où les gens se plaignent. Les gens qui travaillent devant des écrans, des terminaux à écran, se plaignent. Alors, il y a plusieurs types de risques. Il y a des risques qui sont liés au poste de travail proprement dit, c'est-à-dire le poste de travail physique, l'agencement de l'écran, de la chaise, etc., et plus largement les risques liés à tout l'environnement physique autour du poste. Il y a les risques qui sont liés à la tâche elle-même, à qu'est-ce que l'opératrice fait sur ce poste, et les risques qui sont liés à l'organisation du travail. Parce que ce qu'on a pas, on l'a dit un peu, mais on peut vraiment insister sur le fait que l'introduction des nouvelles technologies, elle transforme l'organisation du travail, ou plutôt... Bon, d'un côté, elle la transforme, ou de l'autre, elle révèle et elle rigidifie une structure organisationnelle. Si on prend par catégorie, les risques dus au poste de travail sont principalement de deux ordres. Pourquoi ? On regarde un écran sur lequel il y a des lettres lumineuses qui apparaissent, et donc il y a une forte, ce qu'on appelle une charge visuelle. Il faut regarder quelque chose, une source de lumière très mauvaise en général, mal agencée, avec des problèmes de contraste, de reflets, de mauvaise lisibilité des lettres, etc., qui font que un travail visuel très fort à accomplir et que les gens effectivement se plaignent de problèmes aux yeux. Ils ont les yeux qui pleurent, les paupières rouges, et surtout la sensation de sentir le globe oculaire qui est un signe de fatigue visuelle. Il y a aussi des problèmes de posture. On est assis devant un écran, on a les mains fixées sur le clavier, et donc on a une rigidification totale de la posture. Il faut vraiment imaginer une personne qui est là devant son écran et qui doit s'adapter à ce poste de travail, même si on essaye de construire les tables les mieux adaptées, les chaises les mieux conçues. De fait, on reste une partie de la journée, parfois toute la journée, dans la même position, et donc on a des problèmes de posture. Et les gens se plaignent de douleurs dorsales, de douleurs de la nuque, de douleurs dans les bras. Il y a donc surtout ces deux types de plaintes. Bon, après, au niveau de l'environnement physique en général, bon, si vous travaillez avec ces nouvelles technologies, vous le savez sûrement, la lumière n'est jamais bonne. Parfois, il y a du bruit, parfois, il y a des problèmes de courant d'air parce qu'il y a juste l'air conditionné. Donc, il y a d'autres problèmes qui vont s'ajouter. Les risques qui sont liés au contenu de la tâche proprement dite. Parce que on peut diviser le travail sur terminal en deux, en gros, en deux grosses catégories. Il y a le travail qu'on appelle de saisie, c'est-à-dire la personne qui est sur son écran et qui doit saisir, c'est-à-dire faire entrer une série de données sur le terminal ou lire une série de données sur ce terminal. Et il y a les tâches qu'on appelle de dialogue, où on discute en quelque sorte avec son ordinateur. Alors pour revenir à ces deux types de tâches, on voit que effectivement les opératrices, celles qu'on appelle les opératrices de saisie, qui font le travail le plus monotone, le plus répétitif, le plus ennuyeux, le plus long devant leur terminal, ont plus de plaintes et on peut objectifier ces plaintes. Effectivement, on voit qu'il y a la posture est beaucoup plus rigide, donc il y a des problèmes de posture plus forts, on doit tout le temps regarder l'écran, donc il y a des problèmes de visuel plus forts, donc toutes les plaintes, tous les signes de fatigue sont plus forts pour les personnes qui font ce travail que pour les personnes qui font une tâche de dialogue où la plupart du temps on peut quitter les yeux l'écran, on peut faire autre chose, on peut se tourner, on regarde un document. Donc il y a toute une variation du travail, une diversification du travail qui fait que la personne est moins enchaînée directement sur son poste de travail. Donc on ne peut pas du tout analyser les risques du travail si on n'essaye pas de voir mais qu'est-ce que la personne fait vraiment, quel type de travail elle fait, et à partir de là on peut mettre en évidence toute une série de risques. Bon, en dernier lieu, on a parlé des transformations organisationnelles, c'est-à-dire l'organisation du travail change, la hiérarchie qui est autour de ce travail change aussi, et cela se manifeste surtout par ce qu'on appelle le stress, c'est-à-dire le fait que la personne, elle se sent surveillée par sa machine, et on le verra plus tard que c'est souvent vrai, elle fait un travail de plus en plus parcellisé, monotone, donc où elle s'identifie très peu avec ce travail, donc il y a toute une toute une série de nuisances qu'on appelle globalement par le stress et qui se manifeste par le fait que les gens sont très fatigués, très irritables, des problèmes de digestion, des troubles du sommeil, enfin toute une série de troubles qui s'en suivent. Voilà en gros très schématique et très rapide les risques principaux de la santé. Donc liés, je vous le dis, à la fin de la chaîne, c'est-à-dire à l'utilisation du terminal.